Troisième partie, septembre 1942. Chapitre 1. Rome. Elisabetta Borghese était ce que, en d'autres temps, les humanistes auraient appelé une grande conscience. Le Mandrillo était un bordel, certes, mais il y soufflait de saines valeurs civiques et morales. Dans un pays où sévissait le chômage, il aurait été malséant de faire la fine bouche. D'autant que les jeunes protégés étaient recrutés dans le sud, région où la misère faisait partie du paysage quotidien. Or, la maîtresse des lieux ne se contentait pas de leur offrir le gîte et le couvert, elle organisait aussi à leur intention des cours de maintien, d'hygiène, de bonnes manières et même de langue italienne, car les dialectes méridionaux n'avaient pas cours dans les salons de la ville éternelle. En femme d'affaires avisée, la mère Macrel se contentait, en échange de ses services, de prélever 10% sur le salaire mensuel qu'elle versait à ses stagiaires tous les trimestres, afin de leur enseigner les vertus de l'épargne. Les logements étaient chers à Rome, mais les employés d'Elisabetta, moyennant un modeste prélèvement supplémentaire de 10%, pouvaient dormir sous les combles du palazzo que, par charité, elle avait transformé en dortoir. Les Borghese appartenaient à une famille milanaise de petits fonctionnaires. Luigi, l'aîné et l'intellectuel, était devenu prêtre et diplomate. Moins douée pour les études, sa cadette Elisabetta s'était contentée d'épouser en 1934 le riche colonel Cornato, propriétaire de 3 palais à Rome et surtout de vignobles de Frascati sur les pentes des Castelli Romani. Parti s'illustrer en Éthiopie, l'officier de cavalerie revint couvert d'honneur et d'un plaid, ayant dû abandonner son cheval pour un fauteuil roulant. Elisabetta fit encadrer ses décorations. Elle vérifia que son mari, désormais aphasique et paraplégique, mais promu général, avait bien droit à une pension. Ne reculant devant aucun frais, elle l'envoya à Samugheo en Sardaigne, dans une maison de convalescence permanente tenue par des religieuses, se promettant de lui rendre visite une fois par an, dès que la guerre serait finie. En attendant, il lui fallait, en bonne épouse, veiller aux intérêts de son mari, à ses actions, ses comptes en banque, ses vignobles et ses immeubles de rapport, dont le plus beau était un palazzo Renaissance situé à quelques encablures du Colisée. Le colonel avait été excellent cavalier, mais piètre financier. Il était temps de tout reprendre en main. Cette femme honnête décida d'investir dans le vice, activité certes condamnable en stricte orthodoxie catholique, mais moins que la banque, la presse ou la politique. Sa nouvelle mission était de rapprocher les humains, comme son frère diplomate en somme. Elisabetta conserva pour elle le petit rez-de-chaussée de 8 pièces, puis aménagea les étages et les combles. Le hasard faisant bien les choses, les travaux furent terminés à la fin de 1940, alors que Rome recevait de nombreux visiteurs venus d'Allemagne qui ne demandaient qu'à oublier ce qui se passait de l'autre côté des Alpes. C'est ainsi que le Mandrillo devint le point de chute des émissaires du Troisième Reich, des officiers italiens en permission, des diplomates en poste au Saint-Siège et des disciples du Duce venus de leur lointaine province. Jamais la police n'aurait osé pénétrer dans ce haut lieu de convivialité où elle risquait de rencontrer quelques ministres, voire de déclencher un incident diplomatique. Même Mario Volponi se serait bien gardé de s'y rendre en mission officielle. Il ne lui serait jamais d'ailleurs venu à l'esprit d'y rechercher les 2 étrangers rencontrés dans le train, et encore moins d'imaginer que l'entreprenante Elisabetta, épouse héroïque du valeureux général Cornato, était la sœur de son éminence Luigi Borghese. Habitué des maisons de passe de Manchester, tout le Bahadur Tapa fit la grimace quand Lloyd l'informa qu'il serait enfermé dans leur chambre. À l'inverse de son majordome, Christen n'aimait pas les bordels, non pour des raisons morales, mais, disait-il à ceux qui s'en étonnaient, parce qu'il détestait le champagne et le rouge à lèvres. Puisque l'attente risquait de se poursuivre quelques jours encore, il décida, comme à Liverpool, de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ornée de vastes miroirs et de fausses tapisseries des gobelins, la chambre que Lloyd occupait avec Tapa était confortable. Dès leur arrivée, Elisabetta leur fit monter un excellent repas, préparé par le cuisinier de l'établissement, un nain juché sur un tabouret face à ses fourneaux. Le vin était le Frascati du colonel Cornato, que son épouse faisait acheminer par camion des Castelli Romani. Le Mandrillo les proposait à ses clients à un tarif privilégié, seulement 20 fois leur prix réel. À peine arrivés, Lloyd et Tapa reçurent la visite du tailleur du Vatican, venu prendre leur mensuration exacte afin de confectionner les uniformes dont ils allaient avoir besoin pour leur mission. Puis, comme Christine détestait rester longtemps sans un livre, il réclama de la lecture. Elisabetta lui apporta aussitôt les dépouilles littéraires de la nuit précédente, un exemplaire de la Gerbe, souvenir laissé par quelques diplomates français du Saint-Siège, un manuel du confesseur en italien, un roman d'Antonio Baldini, et, ce qui était plus surprenant encore, une des aventures d'un héros de la RAF, Bagels Defies the Swastika, dont on pouvait se demander par quel chemin tortueux elle avait ainsi échoué au cœur libidineux de la chrétienté. Les heures lentement s'écoulèrent. Distillées par les visiteurs, rumeurs et nouvelles circulaient. On avait ainsi appris que le maréchal Rommel avait enfin lancé ses panzers entre la dépression d'El Catara et les hauteurs de Ruweisat. Sur le front de Russie, le général Friedrich Paulus restait optimiste. La chute de Stalingrad était, paraît-il, une question de jours. Et l'arrivée du général Yukov, chargé par Staline d'organiser la contre-offensive, ne changerait rien à l'issue victorieuse de la bataille. Dans le même temps, à Rome, le cardinal Casimiro Carlo de Aliatta, richissime diplomate du Vatican, entrait à l'hôpital pour y subir une opération de l'algus valgus. Tombé en panne sur le chemin du retour, son chauffeur sicilien signala à ses supérieurs qu'il lui avait fallu laisser la voiture, une Hispano-Suiza, dans un garage. Sur place, cette information n'intéressa personne, mais c'est avec satisfaction que le colonel Barnes apprit la nouvelle dès son arrivée à Londres. Tout se déroulait comme il l'avait prévu. Berlin. Trudy Schneider surveillait Jutta et Martin Wurtz depuis plusieurs jours. Or, malgré l'attachement qu'elle portait à Himmler, elle avait le sentiment de perdre son temps. À l'évidence, aucun des deux suspects ne se livrait à des activités subversives. Wurtz ne quittait son bureau de l'Abwehr que pour s'acquitter de ses missions, et les seules exceptions étaient les visites à son chirurgien. Certes, Martin ne participait à aucun rassemblement du parti nazi, mais il achetait chaque jour le Völkischer Beobachter et chaque semaine, Das Schwarze Korps, l'hebdomadaire des SS. Lorsqu'une fois Martin s'écarta de la routine quotidienne, ce fut pour aller à la chancellerie où Hitler l'attendait. Alors que le Führer préparait dans son quartier général de Prusse orientale une nouvelle offensive contre Stalingrad, alors que son attention était sollicitée chaque jour par 1001 décisions cruciales pour l'avenir du Reich, il avait trouvé le temps de recevoir Martin Wurtz lors d'un passage éclair à Berlin, ce qui indiquait à tout le moins que les deux hommes étaient proches. Le terrain était donc miné. S'en prendre à l'ami d'enfance de Hitler pouvait se retourner un jour contre ceux qui lui cherchaient des poux dans la tête. À commencer par Trudy Schneider, car Himmler, en qui le Führer avait toute confiance, était un finaud. Le chef des SS pourrait toujours prétendre que la jeune femme avait mal compris ses ordres, lesquels étaient de protéger Martin Wurtz, non de l'espionner. Trudy fit également chou blanc avec les écoutes téléphoniques que le Reichsführer lui avait demandé de mettre en place. La vérité était que les Wurtz n'avaient de relation avec personne, ce qui d'ailleurs était suspect. On aurait pu croire qu'après une aussi longue absence à l'étranger, Jutta aurait ressenti le besoin d'aller au restaurant ou à l'opéra. Il n'en fut rien. Comme si, se sachant suivi et espionné, les jumeaux, d'un commun accord, avaient décidé de vivre en autarcie, coupés du monde. Or, ce comportement asocial ne correspondait pas à leur style de vie des années 30. Les fiches consultées aux archives étaient à cet égard très explicites. 10 ans auparavant, Jutta et Martin étaient de tous les dîners en ville. Ils étaient aux côtés de Hitler au mariage de Magda et Joseph Goebbels. Et Jutta fut bien sûr invitée à celui du leader fasciste anglais Mosley et de la belle Diana Mitford. Par ailleurs, dès 1927, Goebbels avait publié les articles de Martin dans son hebdomadaire Der Angriff. Il est vrai qu'à cette époque, le jeune critique d'art désargenté pissait de la copie. La source s'était tarie après son départ pour l'Amérique du Sud. L'éloignement n'expliquait pas tout, et le manuscrit sur l'art médiéval promis aux éditions Eher n'avait jamais été livré. On aurait dit qu'à un certain moment, et pour des raisons restées mystérieuses, Martin avait perdu la foi, ce qui d'ailleurs, pensait Trudy, était déjà un crime en soi. Rester en marge, se retirer sous sa tente, ne plus croire à l'ordre nouveau, c'était passer à l'ennemi. Certes, Martin travaillait à l'Abwehr, qui en principe traquait les espions et les traîtres. Mais pouvait-on faire confiance à cet amiral Canaris, dont certains disaient qu'il jouait tous les jeux à la fois? Même Röhm, l'ami intime de Hitler, avait trahi. Même le fidèle des fidèles, Rudolf Hess, celui en qui le Führer avait toute confiance, avait, semble-t-il, retourné sa veste et s'était envolé pour la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il devait prendre le thé avec Churchill, qui ne manquerait pas de le décorer après la guerre, si par malheur le Reich venait à être vaincu. Il fallait tout reprendre à zéro. Eh bien, elle commencerait par l'hôpital. Était-on sûr, d'ailleurs, que Martin Wurtz avait été opéré? Et était-il bien exact que le docteur Hoffmann, son chirurgien, était un homme de confiance, un Allemand authentique? Les fiches le disaient, certes, mais elles n'étaient pas de la première fraîcheur. Trudy se saisit du dossier et constata qu'elle datait en effet de 1938. Bien des choses avaient changé depuis. Elle irait sans tarder rencontrer ce docteur Hoffmann. Fribourg-en-Brisgau. Comme beaucoup d'Allemands, le chef de la police de Fribourg n'était nazi que du bout des lèvres. Il payait sa cotisation au parti, achetait le Völkischer Beobachter et n'était pas avare de Heil Hitler. Dans son bureau, un grand portrait du Führer trônait bien en évidence, et une des aquarelles du maître, découpée dans le recueil publié avant la guerre, était accrochée au mur. Tout cela ne coûtait rien ou pas grand-chose. L'important était de s'en sortir vivant et de protéger sa femme et ses quatre enfants. C'est pourquoi il mit, en apparence, le plus grand soin à conduire l'enquête. Tous ses hommes furent mobilisés et ceux qui étaient en congé furent rappelés sur le champ. Le chef de la police était un cabotin et il se montra aux quatre coins de la ville. Prenant plaisir à jouer son rôle de fin limier, il se fit photographier à la porte du commissariat, à la gare, au couvent des franciscains, devant la cathédrale. Il retourna sur les lieux du meurtre, sur la Turmstrasse, et y déposa un bouquet d'Edelweiss. Puis il fustigea les juifs, les traîtres et les bolcheviks, cita Mein Kampf, et la larme à l'œil, évoqua les 57 morts du bombardement de 1940. Dans un appel à la population, il rappela que la délation était un devoir civique. Il connaissait la victime, le docteur Ulrike von Naumann, et la savait très proche des milieux scientifiques du Troisième Reich, expression que le policier trouvait d'ailleurs singulière. Lui-même, qui n'était pas un intellectuel, n'avait pas eu besoin de réfléchir longtemps pour comprendre ce qui se passait en Allemagne. À côté de cela, d'éminents savants, de brillants universitaires et des médecins réputés regardaient Hitler comme un sauveur et venaient gonfler les rangs du National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Le policier découvrait avec étonnement qu'un diplôme n'est pas un brevet d'intelligence. Lui, dont les parents étaient d'humbles ouvriers, se trouvait finalement moins bête. Mais il était confronté à des choix difficiles, car il n'est pas simple de feindre la vertu pour sauver à la fois sa peau et son âme. Par chance, il avait un complice, un médecin catholique jeté en prison à la suite d'une sordide machination quelques années avant la guerre. Le policier était parvenu à le disculper et à le faire libérer après une enquête difficile. Réintégré, l'homme avait repris son travail de légiste à la morgue. Au cours de la nuit du 2 au 3 septembre, Le policier sortit de son bureau, le visage grave. Une voix anonyme, déclara-t-il, venait de lui donner une information de première main au téléphone. La meurtrière du docteur Ulrich von Naumann se terrait dans un immeuble abandonné à la sortie est de la ville, sur la route de Kirchzarten. Avant de partir seul en éclaireur, il n'y avait plus une seconde à perdre, il donna ordre à son adjoint de réunir toutes les forces de police. Quand celles-ci arrivèrent sur place, elles aperçurent une limousine DKW vide, celle de leur patron, garée sur le bas-côté de la route. Elles allaient donner l'assaut lorsque le chef de la police sortit de l'immeuble, un revolver à la main. « Il était arrivé juste à temps, expliqua-t-il. Accueilli par des coups de feu, il n'avait eu d'autre choix que de répliquer. La meurtrière était morte sur le coup. C'était une brune, en effet, et sa bicyclette était bien là, sous la porte cochère. Il donna l'ordre de mettre en place un périmètre de sécurité autour de l'immeuble et de ne toucher à rien avant le lever du jour. Himmler serait satisfait. Personne ne découvrirait jamais que le corps venait de la morgue. La femme, une petite bonne sans famille, était morte dans la nuit d'un cancer foudroyant. Ce qui n'empêcherait pas le légiste de conclure à un décès par balle, celle que le policier lui avait tirée dans la poitrine. Tout le reste serait un simple jeu d'écriture. Le chef de la police remonta dans sa voiture et éclata d'un grand rire. Goebbels avait au moins raison sur un point, tout n'était que manipulation. Et d'ailleurs, les habitants de Fribourg ne le savaient toujours pas. Mais c'étaient les Allemands qui, par erreur, avaient naguère bombardé la ville. Carlisle. Septembre, cette année-là, fut le plus beau mois de l'année à Carlisle. Comme si le soleil, s'en voulant d'avoir boudé si longtemps, cherchait à se racheter avant que les ondées de l'été ne laissent place aux pluies de l'automne. Eric Jackson décida d'en profiter. La douleur faisait relâche depuis 2 ou 3 jours, grâce à Dieu. La suite était prévisible, mais peu importait puisqu'il avait tenu. Mission accomplie. Le colonel Barnes allait arriver dans la soirée, après être passé à Downing Street. Dans quelques heures, l'intérim serait terminé. Le policier alla d'abord visiter la petite cathédrale à 2 pas de Paternoster, mais ne s'y attarda pas. Depuis son enfance au Pays de Galles, il se sentait opprimé dès qu'il entrait dans une église. Si Dieu existait, ce dont il n'était plus persuadé, son vrai temple ne pouvait être que la nature, non ses constructions certes belles et impressionnantes, mais inutiles. Depuis qu'il sentait la fin approcher, Jackson pensait souvent à son enfance dans le petit village de Capel Celyn, où il reposerait un jour très prochain. Il y avait été pauvre, mais heureux, du moins jusqu'à ce jour d'octobre 1905, où l'ambulance avait ramené son père. Ses 39 camarades eurent plus de chance. Ils trouvèrent la mort au fond de la mine, alors que l'agonie des 3 survivants dura plusieurs semaines. Des semaines de souffrance inutile. Peut-être pas tout à fait, cependant, puisque le jeune Eric eut ainsi le temps de parler à son père et de lui tenir la main. Si, 30 ans plus tard, Jackson se disait encore gallois, c'était par piété filiale. En réalité, il ne savait toujours pas comment on pouvait distinguer un gallois d'un anglais, un irlandais d'un écossais, un protestant d'un catholique. Et si le hasard, mais était-ce un hasard, faisait qu'il s'entourait plus volontiers d'Irlandais que d'Anglais, c'était peut-être tout simplement parce que, comme eux, il aimait lever le coude. Pour Jackson, ces étiquettes tribales étaient sans grande importance, alors que pour d'autres, elles étaient essentielles. Du coup, au nom de différences ténues ou imaginaires, des Irlandais comptaient fleurette aux Allemands, avec qui pourtant ils n'avaient rien en commun. Dans les mois précédant la guerre, l'Allemagne avait recruté des espions en Inde et en Afrique du Sud, mais aussi en Irlande, en Bretagne et au Pays de Galles. Daniel Maugry, du contre-espionnage, avait même confié à Jackson, quelques mois auparavant, que l'un des meilleurs agents de l'Abwehr à Londres était un Gallois, qu'il lui avait filé entre les doigts alors qu'il s'apprêtait à le coincer. Richard Lowry, l'homme qu'il avait suivi dans le train l'autre jour, était bien un Irlandais, alors qu'il ne connaissait même pas 10 mots de gaélique. Si d'aventure Maugry disait vrai, il restait à espérer que le maître espion gallois ne s'était pas, lui aussi, réfugié à Carlisle. Le train du colonel Barnes n'allait pas tarder. Jackson fit demi-tour devant l'église St. Cuthbert et se dirigea vers la gare. Rome. Dans une opération, le plus difficile est l'attente, et non l'action elle-même. À Édimbourg, au moins, il y avait de la variété dans l'emploi du temps, puisque chaque conférencier avait son fonds de commerce et ses tics de langage. Ici, à Rome, il fallait rester cloîtré. Christine, qui adorait la ville, supportait mal de ne pouvoir se promener dans les rues de Rome. Le Forum et le Colisée étaient à deux pas. Les bords du Tibre et l'île Tiberina devaient être fort agréables en ce doux début de septembre. En Italie, comme en Inde, le spectacle est dans la rue. Et s'il avait pu sortir, Christine y aurait une fois de plus croisé ses amis les chats, qui, depuis plus de 2000 ans, animent les venelles et les pierres de la ville éternelle. Eh bien, ce serait pour une autre fois, si tant est qu'une autre fois se présente un jour. À son habitude, tout le Bahadur Tappa dormait à point fermé. Peut-être rêvait-il qu'il était de retour à Manchester, dans le bordel ouvrier où il avait ses habitudes. De nature insomniaque, Christian Lloyd, lui, passa une partie de la nuit à lire. C'est avec plaisir qu'il dégusta Rugantino, le roman que Baldini venait justement de consacrer à Rome. Le manuel du confesseur l'amusa un instant, puis lui tomba des mains. La bêtise cesse vite d'être drôle. Du coup, il se tourna vers le roman du capitaine W. E. Johns, Biggles Defies the Svastika. Ce n'était certes pas un chef-d'œuvre littéraire, mais le livre, après tout, s'adressait à des adolescents, et c'est dans un esprit de naïveté enfantine qu'il fallait le lire. Christine savait qui était Johns, puisqu'il avait lu une longue interview de lui dans la presse durant son séjour à Édimbourg. Le père de Biggles rappelait que son héros était né en Inde à la fin du XIXe siècle. Autrement dit, c'était non seulement un contemporain, mais aussi un compatriote. Et qu'était l'opération Bushido, sinon l'exact équivalent, dans la réalité, de la mission de Biggles? Comme lui, Christine allait défier la croix gammée, le Svastika. Sur le coup de minuit, il reposa le livre et se saisit du numéro de la Gerbe, le journal français qui, sans humour apparent, se proclamait hebdomadaire de la volonté française. Le numéro datait du 14 mai, mais gardait tout son sel. La première page était consacrée à de longs extraits d'un discours sur Jeanne d'Arc, prononcé par Chateaubriand à Paris, salle Pleyel. Un autre article rappelait au lecteur que l'exposition du sculpteur allemand Arno Breker allait ouvrir ses portes à l'orangerie des Tuileries. Dommage, Christine ne serait pas au vernissage. Un autre texte était consacré à Schiller et la Révolution française. Une nouvelle, La tunique grise, était traduite de l'allemand. Une surprise de taille attendait Christine en page 5. Il y avait sur 6 colonnes un reportage sur Fribourg en Brisgau. Malgré un titre prometteur, l'article parlait peu du Fribourg de 1942. C'était un compte rendu flagorneur sur le passage dans la ville d'Alphonse de Chateaubriand, l'ancien prix Goncourt devenu directeur du journal, qui, à l'invitation des affaires étrangères du Reich, était venu y lire des extraits de son œuvre. Avec lyrisme, le journaliste évoquait l'amitié franco-allemande symbolisée par la rencontre entre l'écrivain parisien et 7 volontaires français de la Légion anti-bolchevique. Le dernier paragraphe valait son pesant de moutarde. Le terrible hiver a passé. Les premiers chants du printemps s'élèvent dans le silence de cette nuit éclairée d'étoiles, et ce qu'on entend, avec l'hymne des oiseaux, c'est le grand cœur d'un pays qui souffre, espère et croit. La cloche du Münster sonne les heures, et c'est la même voix de bronze qui descend de lui depuis de nombreux siècles. Suivait une virile signature, Guy Arvan, qui sentait le pseudonyme à plein nez. « Amen !» conclut Christine. Il replia le journal et le jeta dans la corbeille à papier. Le Fribourg, où l'attendait Elisa Wagner, était sans doute à des années-lumière de cette vision poétique des choses. Il s'étendit sur le lit, éteignit la lumière et chercha le sommeil en se récitant les mots de passe et les adresses dont il aurait besoin en Allemagne. Là où les cœurs battaient à l'unisson, là où les oiseaux chantaient. Berlin. Rouler dans un cabriolet avec chauffeur est une chose, être pris au sérieux en est une autre. Or, du portier de l'Abwehr à l'amiral Canaris, tout le monde considérait Rudolf Breuer comme un simple d'esprit. C'est avec de tels malades que se perdent les guerres, disait le colonel Lausen, le maître espion du service sabotage et subversion. Si certains fonctionnaires dépensaient trop d'argent, subtilisaient les passeports et oubliaient d'éteindre en quittant une pièce, c'est qu'ils avaient leurs raisons. Et ces raisons, puisqu'on était dans les services secrets, personne n'avait à les connaître. Par nature, l'Abwehr, monde à part, échappait aux règles communes des services. Elle était divisée en départements étanches qui comportaient eux-mêmes de multiples branches, sections et sous-sections qui toutes ignoraient ce que faisaient leurs voisines. Il y avait autant de compartiments que de bureaux et de portes. Tourné vers l'étranger, l'Abwehr se flattait d'être une exception. Ses pratiques et ses mœurs s'éloignaient souvent de l'idéologie que les espions, saboteurs et agents de renseignement étaient néanmoins chargés de défendre. Sa seule règle était l'efficacité, quitte à recruter en dehors des sentiers battus, voler des passeports ou dépasser son quota de trombone. Le chef de cet empire secret, Wilhelm Canaris, ne payait pourtant pas de mine, avec ses allures bonasses de fonctionnaire retraité. Travailleur infatigable, il haïssait les week-ends et les vacances, et faisait preuve, depuis sa nomination en 1935, d'une diabolique efficacité. Ses hommes étaient présents dans le monde entier, du Maroc à l'Inde, de l'Irak au Vatican, de la Norvège à l'Afrique du Sud. Ces soldats de l'ombre connurent pourtant de graves revers, quand, par exemple, le FBI arrêta le même jour de l'année 1941 31 espions allemands infiltrés aux États-Unis. Canaris n'était en rien responsable de cet échec, et son pouvoir, en 1942, restait considérable. À telle enseigne que, jaloux de lui, certains hauts dignitaires, comme Heydrich et Ribbentrop, cherchaient à le doubler. D'autres, comme Himmler, devaient à contre-cœur composer avec lui, parfois même le protéger, afin de se protéger eux-mêmes. Beaucoup tentaient de l'affaiblir, car l'Abwehr, comme la SS, était devenu un État dans l'État. Canaris le savait. Il jouait un jeu dangereux. Nationaliste convaincu, mais pas national-socialiste, anticommuniste acharné, il lui arrivait de désobéir aux ordres du Führer, flirtant même avec les Alliés, flattant la croupe de Franco ou de Pie XII. C'est par le Vatican, noyauté par ses soins, qu'il faisait passer ses messages aux Anglais. En bon hypochondriaque, il prévoyait les médicaments avant les premières fièvres. Alors que Goebbels, le ministre de la propagande, claironnait la proche victoire définitive des armées, l'amiral décelait les signes avant-coureurs de la défaite. Alors que les oriflammes rouges et noires claquaient à tous les vents du Reich, Canaris préparait, en sous-main, la naissance de l'Allemagne nouvelle, une Allemagne sans fureur. Pour Canaris et ses proches collaborateurs, Rudolf Breuer était un simple nom tout au bas de l'organigramme. Tout le monde le connaissait, mais comme on connaît le dernier de la classe ou l'idiot du village. Avare de mots dans les couloirs, Breuer ne l'était pas de sa prose écrite, et ses notes de service stigmatisaient le manque de respect des fonctionnaires envers l'administration, les réglementations et les lignes budgétaires. Quand il fit savoir que deux passeports manquaient à l'appel, tous les vieux routiers de l'Abwehr opinèrent et prirent un air entendu. Mais lui continuait de chercher sans relâche l'indice qui le mettrait sur la voie du coupable. Maintenant que, protégé par Himmler, il disposait d'un chauffeur, il se sentait investi d'une mission nouvelle, celle qui lui permettrait enfin de démasquer un traître. Rome. Il faisait encore nuit le vendredi 4 septembre quand Adrian Foster sonna à la porte du Mandrillo. Prévenue par un coup de téléphone de son frère Luigi, Elisabeth l'attendait dans le salon. Elle le fit aussitôt monter à l'étage et le conduisit dans la chambre que Lloyd et Tapa occupaient depuis quelques jours. Le Gurkha dormait encore, mais Kristen, en petite tenue, faisait ses exercices de yoga sur le tapis. Foster se laissa tomber sur une chaise et sortit un document de sa serviette. Il n'avait que quelques minutes à consacrer à ses hôtes, car on l'attendait à l'ambassade. « Trois nouvelles, mes amis, deux bonnes et une mauvaise. » Kristen avait passé la chemise qui lui servait de peignoir. « Dites-nous les bonnes. » « Les Allemands ont échoué en Égypte. Ils n'avancent plus et il paraît même que Rommel est malade. Par ailleurs, le tailleur du Vatican a terminé son travail. » Ah, je vous envie. Vous allez avoir una bella figura pour visiter l'Allemagne. Ce brave artisan passera vous voir avant midi. Inutile de laisser un pourboire. Ses tarifs, croyez-moi, sont prohibitifs. Il s'arrêta un instant et alluma une cigarette. Il y a en effet une mauvaise nouvelle. Monseigneur Casimiro de Carlo Aliatta, qui s'est fait opérer avant-hier, vient de passer l'arme à gauche. Rupture d'anévrisme. Ma foi, c'est dans l'ordre des choses, même au Vatican. À 86 ans, le pieux Monsignore était bon pour la casse. Ce décès brutal me conduit à avancer la date de votre départ, car la disparition de sa voiture diplomatique va refaire surface plus tôt que prévu. Bref, en un mot commençant, vous partez ce soir à 23h. Foster tira une longue bouffée de sa Lucky Strike. « La police, poursuivit le diplomate, vous recherche toujours, bien sûr, mais le cœur n'y est plus. Les Italiens, c'est bien connu, sont des velléitaires. Restons prudents, néanmoins. Monseigneur Borghese a donné ses ultimes recommandations à son neveu Pietro. Un brave garçon, ce Pietro. Pas finaud, mais fiable, comme tous les Siciliens. Il se ferait tuer pour son oncle, et peut-être même pour les amis de son oncle. » C'est réconfortant, grommela Kristen. Certes, mais il a fallu y mettre le prix. Ce très cher Pietro conduira la voiture jusqu'à la gare de Bologne, où il prendra le train pour le sud. Pour la traversée de Rome, allongez-vous à l'arrière. Une fois dans la campagne, le danger sera moindre, mais restez prudent jusqu'à Florence. Au fait, j'ai été surpris par la qualité de vos deux portraits. Ces policiers ont de sacrés dessinateurs. Kristen haussa les épaules. « Les Italiens ne vont tout de même pas arrêter une voiture du Vatican. » « Non, bien sûr, mais il y a plusieurs façons d'arrêter une voiture sans l'arrêter, monsieur Lloyd. Le plus simple est de l'immobiliser lors d'un contrôle, en crevant les pneus, par exemple, ou en glissant du sucre dans le réservoir d'essence. « Au fait, demanda Lloyd, de quelle voiture allons-nous disposer ?» Foster eut un large sourire. « La chance est de votre côté. Vous aurez à votre disposition un petit bijou. La plus belle voiture du monde, une Hispano-Suiza de 1936, construite en France. Très gourmande, c'est son seul défaut. » Tapa griffonna quelques lignes et passa le papier à Kristen Lloyd, dont le visage s'éclaira. « Eh bien, c'est une chance, en effet. Le subadar-major a souvent conduit cette voiture, il y a 2 ou 3 ans, lors d'un de ses séjours en Inde. Un de ses amis, Maharaja, venait d'en acheter un modèle, et il avait besoin de quelques leçons de conduite. « Parfait !» reprit l'Irlandais. « Bien, voici vos papiers ainsi que les toutes dernières instructions de Paternoster. À mémoriser avant de les brûler. Si vous avez des lettres pour l'Angleterre, confiez-les à Elisabeth. Elle les remettra à son frère, qui les glissera dans la prochaine valise diplomatique en partance pour Madrid ou Lisbonne. « Il n'y aura pas de lettres, » murmura Kristen, « et j'ai horreur des cartes postales. » Foster se leva. « Fort bien, messieurs, je vous souhaite beaucoup de chance. Nous nous reverrons après la guerre, je l'espère. Ce fut un honneur pour moi de vous aider. Ah, j'oubliais. Notre ami le colonel est de retour à Paternoster et vous fait ses amitiés. » « Y a-t-il un message pour lui ?» Kristen Lloyd acquiesça. « Oui, monsieur, un message très court. Vous lui rappellerez que Churchill a promis de s'occuper de mes chats. » L'Irlandais eut l'air surpris. Un langage codé, sans doute. Vos chats? Churchill doit nourrir vos chats? Très bien, monsieur Lloyd. Le message sera transmis. Foster se dirigea vers la porte, puis se retourna à la dernière minute. God save the king! Heil Hitler, répondit Christen en retournant à son tapis.